Donc, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma. Nous terminons l'émission avec M. Antonin Baudry. Bonjour.
Bonjour.
Hein, qui présente Le Chant des loups dans le cadre du 25e Cinémania, hein, qui se termine ce week-end.
Et ce n'est pas un film sur les loups.
Et ce n'est pas un film sur les loups, bien sûr, oui. Antonin Baudry, vous êtes un homme au parcours un peu atypique. Hein. En faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'avant de se vous lancer dans le cinéma, vous étiez diplomate au ministère des Affaires étrangères. Vous avez par la suite illustré une BD, Quai d'Orsay, qui a été mise en scène.
Non, je l'ai écrite.
Vous l'avez écrite, hein?
Ouais. J'ai pris un illustrateur qui était Christophe Blanc.
Christophe Blanc, et vous l'avez écrite. Vous avez scénarisé le film?
Scénarisé, storyboardé avec Christophe. On a fait les choses ensemble.
Ouais. Ouais. Puis par la suite, avec Bertrand Tavernier.
Et avec Bertrand, voilà, j'ai co-écrit le film avec Bertrand Tavernier.
Okay. Et lorsque vous avez... scénarisé, Quai d'Orsay, vous avez utilisé un pseudonyme.
Mm-hmm.
C'était pourquoi?
Eh bien, c'était pour une raison très simple, c'est que donc, quand j'ai écrit cette bande dessinée, j'étais encore moi-même diplomate.
Et on peut pas faire les deux en France?
Ah, on peut tout à fait, mais il faut demander l'autorisation. Et le directeur de cabinet du ministre de l'époque m'a dit, bah, si tu demandes l'autorisation, tu vas l'avoir. C'est un des personnages de la BD, alors je vais lui montrer. Il m'a dit, si tu demandes l'autorisation, tu vas l'avoir, mais peut-être dans 5 ans. Alors si tu fais, tout le monde, fais comme tout le monde, prends un pseudo. Et puis comme ça, tu demanderais à personne, tu as le droit de faire ce que tu veux la nuit, le jour, etc. Okay. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir deux vies en fait. Et c'était très chouette. Ouais. Voilà.
Et le cinéma dans tout ça, il vient où?
Ben, moi j'avais fait des études de cinéma quand j'étais jeune avec notamment Nicole Brunès qui est devenue d'ailleurs une consultante sur mon film, qui a co-écrit le livre d'images, le dernier film de Jean-Luc Godard. Et j'ai toujours voulu faire des films, simplement quand j'avais 20 ans à peu près, j'avais vraiment l'impression, et je pense que j'avais raison, que je connaissais rien du monde. Et que la seule chose que je connaissais, c'était moi. Et tous les gens qui essaient d'écrire sur eux et de faire des choses sur eux, y en a un qui a réussi, c'est Marcel Proust, et puis tous les autres après ont raté. Et donc je m'étais dit, il faut quand même que je découvre le monde. Et je me suis dit, il faut que j'ai des boulots, des trucs et tout. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de travailler dans la diplomatie, je me suis dit, bah, c'est super, je vais faire ça un an ou deux. Ça va me faire voyager, découvrir le monde. Et puis en fait, c'était passionnant. Alors je suis resté de mission en mission, et puis un beau jour, je me suis dit, bon. Allez, faut être sérieux. Maintenant, je fais mes films. Voilà.
Et on arrive au Chant du loup. Et comme vous l'avez mentionné, ça ne parle pas de loup. Hein. Ça raconte plutôt l'histoire de deux équipages sous-mariniers français qui, pour la plupart, se connaissent. Hein. Et là, je ne veux pas tout révéler la fin, mais qui se retrouvent de facto ennemis quand les Russes menacent de détruire le monde par un engin nucléaire. Et inévitablement, vous attaquez à la géopolitique. À travers ce thriller politique, en nous amenant à écouter et à regarder le film. Parce que, je veux dire, votre personnage principal, c'est quelqu'un qui a des oreilles d'or, hein, c'est quelqu'un qui, je veux dire, peut aller chercher les sons, entendre, comprendre, saisir toute la portée des sons. C'est un double défi de vous attaquer un genre, premièrement, et à la fois aussi de visualiser. Hein, le son à l'image.
Oui, tout à fait, c'était ça qui m'intéressait vraiment. C'est un film vraiment sur le son, comme vous l'avez dit, sur le mystère du son, sur ce personnage dont cette oreille d'or, en fait, c'est quelqu'un qui a exactement la fonction d'un poète dans la vie, puisqu'il doit mettre des mots sur des phénomènes inconnus. Et il est le seul qui voit, entre guillemets, ce qui est à l'extérieur du sous-marin, puisque dans un sous-marin, il n'y a pas de fenêtre. Donc, en fait, la perception du monde extérieur ne passe que par les sons. Et donc, lui, il entend ces sons. Il doit mettre des mots dessus, un bruit en brisement d'étoffe, sac de noix. Ils inventent des mots. Ils ont tout un... Et donc, c'est exactement... c'était mon point de départ, parce que j'ai découvert que ces gens-là existaient quand moi-même, j'ai plongé dans un sous-marin. J'étais plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Il y avait... les sonars étaient branchés. On entendait des sons au lointain. On ne savait pas bien si c'était des sirènes, des animaux, des bateaux. C'était très mystérieux. Le bruit de l'océan. On entendait les voix des hommes qui se donnaient des informations. Tout le monde parlait, sauf une personne qui disait rien. Et j'ai dit, c'est qui lui? Il m'a dit, faut pas le déranger, c'est l'oreille d'or. Et j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, cette fonction-là. J'étais un gamin en plus, hein, c'était un très jeune homme. Et tout le poids du bateau reposait sur lui, parce que selon ce qu'il allait entendre ou pas, l'équipage était en danger de vie ou de mort. Et voilà, donc visualiser les sons. Moi, je me suis dit, il faut arriver à rendre cette question d'écoute et du mystère qu'il y a dans un son qui se cache derrière un autre. Il faut arriver à le montrer toutes les manières possibles, tous les moyens de cinéma possibles. Alors évidemment, il y a en créant des sons déjà, mais il y a aussi à travers la musique. Il y a certains moments dans le film, il y a des musiques qui valent pour des sons. Il y a à travers les acteurs, le jeu d'acteur, évidemment, le personnage qui lui-même entend ses sons. Il y a à travers le visuel des sons sur des écrans.
Qu'on voit.
J'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Territory qui est spécialisée dans le fait de faire des écrans, et on a recréé des écrans qui sont en même temps très réalistes et en même temps stylisés.
C'est vraiment ce qu'on voit apparaître pour quelqu'un qui serait dans un sous-marin et qui aurait accès à cet ordinateur-là. C'est à peu près, je veux dire, le genre de pictogramme qu'il pourrait voir.
Alors moi, j'ai passé donc presque 3 semaines en tout sous l'eau, en plusieurs fois, et j'ai pu observer tout ça. Et mon principe, ça a été le réalisme. C'est-à-dire, on part du réel et puis on le stylise, on le travaille, mais on part toujours du réel. Et donc, effectivement, ça ressemble à ce que verrait, ça ressemble d'assez près à ce que voient des veilleurs sonars ou des oreilles d'or dans des vrais sous-marins. De manière générale, j'ai vraiment voulu, par exemple, le décor des salles de commande. Il y a beaucoup de scènes qui sont filmées dans des vrais sous-marins. Les salles de commande, non. Je les ai faites en studio. Mais à l'échelle 1, et en reproduisant exactement ce que c'était qu'un vrai sous-marin tel qu'ils sont actuellement.
Et votre film, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a côté huis clos, hein, parce qu'effectivement, on sort à quelques moments de ces sous-marins, mais fondamentalement, la majorité du film se passe à l'intérieur d'un huis clos.
C'est un film sur les hommes, sur les émotions qu'ils ressentent, sur un dilemme moral.
Voilà.
Sur la confiance qu'ils ont en eux, entre les uns les autres.
Et je trouve que cette oreille d'or, pour moi, humanise tellement, je veux dire, votre film. Parce que tantôt, j'avais débuté en parlant d'un thriller, entre guillemets, politique, et, qui est souvent associé à des genres un peu connus. Mais vous quittez finalement le genre pour vous rapprocher des humains. Et je dis pas qu'il y a pas de grands films humanistes dans les films de genre, mais dans votre cas, j'ai l'impression qu'on se sert finalement d'un dilemme moral pour parler des gens. Et ici, le genre est comme un prétexte à se rapprocher, je veux dire, de ces personnes qui ont des grandes questions et qui se posent de grandes questions, à savoir s'ils doivent respecter ou non les ordres, comment conserver des certaines formes d'amitié, comment être respecté, et ainsi de suite.
Exactement. C'est vraiment un film sur les hommes. J'ai essayé de filmer tout le temps à hauteur d'homme.
Ouais.
Pour moi, les sous-marins, tout ça, c'est beau, c'est des machines qui sont belles, mais c'est un prétexte. Et effectivement, c'est vraiment un film sur les émotions humaines. J'ai voulu faire une tragédie grecque, mais dans le monde moderne d'aujourd'hui. Et je trouvais que le sous-marin nucléaire, c'était un peu le symbole aussi des menaces que l'humanité se fait peser sur elle-même. La destruction de l'environnement, enfin, on connaît tous ces menaces-là. Pour moi, le sous-marin nucléaire, il symbolisait ça aussi. Et de voir un équipage qui est aux manettes de ces armes-là, qui sont absolument terribles et qui ont une mission qui est absolument terrible, et de voir en même temps eux, leur humanité à eux, et comment ils vivent ça, et comment en tant que conscience humaine ils le vivent, et comment à certains moments ils peuvent être amenés à désobéir, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Et j'aime bien le terme de tragédie grecque, parce que c'est parfois on a l'impression que dans un film de genre, on oublie quand il y a des propos, je veux dire, à votre film, et lorsque vous confondez, parce qu'on ne veut pas tout dire, mais lorsque vous confrontez plutôt ces deux sous-marins français à s'autodétruire dans une certaine façon, on est effectivement dans les plus grandes tragédies grecques. Là. Je veux dire, c'est les deux familles qui s'affrontent pour sauver l'humanité dans un certain sens.
Oui, c'est ça. C'est une famille qui est à la fois très unie, qui se retrouve divisée. C'est des gens qui s'aiment tellement les uns les autres, qui sont prêts à mourir les uns pour les autres ou à se tuer les uns les autres. Et c'est ça que moi, qui m'émeut toujours dans... J'ai été beaucoup inspiré quand j'étais petit par certains films de Hong Kong, les premiers films de John Woo, où il y a des ennemis qui deviennent amis, des amis qui deviennent ennemis. Ces choses-là qui sont très, viscérales de la confiance et de l'amitié qui va à la vie et à la mort. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que, du coup, quand j'ai vu quand j'ai pu observer par moi-même ces gens qui sont des centaines de mètres sous l'eau pendant 70 jours d'affilée, les uns sur les autres, dans une situation de danger permanent, à se faire extrêmement confiance les uns aux autres, ça m'a inspiré tout de suite. Et j'ai voulu faire partager aux spectateurs les émotions que moi, j'avais eues en m'immergeant et en ne connaissant rien à ce monde. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le langage des sous-mariniers comme il est, sans édulcorer, sans traduire. Donc, comme une langue, en fait. Il parle une langue un peu spéciale. Et en faisant le pari que le spectateur, il allait comprendre, et je crois que ça marche, en fait. Je crois que le spectateur n'a pas de gêne.
Ah non, il comprend très bien. Mais jusqu'à quel point votre passé de diplomate du ministère des Affaires extérieures, dans un certain sens, vous a permis de jeter ce regard sur les gens? Est-ce que vous auriez pu faire le même film? La question est-ce que vous auriez pu faire le même film à 25 ans? Où vous aviez besoin finalement de rencontrer des gens, d'être confronté à des choix, parce que c'est des choix finalement qui est une absolue, là, je veux dire, parce qu'on est avec l'arme nucléaire, on peut détruire la planète. Donc, est-ce que vous aviez besoin de ce parcours pour arriver à poser ce regard sur ces gens, sur ces hommes?
Oui, tout à fait. J'aurais pas pu du tout faire le même film il y a 25 ans. Non, il fallait toute cette maturité, effectivement, ouais. Pour ce qui me concerne, moi. Et puis, c'est vrai que la question d'apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne, ouais. Quand il est vraiment différent, c'est un truc, bon, c'est typiquement au cœur de la question de la diplomatie. C'est pas seulement de pouvoir traduire ce que dit l'autre, c'est aussi de le comprendre en quoi il est différent, il pense différemment. Et ça fait aussi partie du film, cette question-là. Donc, à plusieurs niveaux, ouais, c'est vrai que... Bah, moi, j'ai toujours l'impression que quand on fait quelque chose, on utilise tout ce qu'on a fait avant, d'une certaine manière. On a absorbé des choses, et ça, c'est en partie inconscient, mais en partie conscient. Donc, ouais, je pense que ça utilise tout ce que j'ai vu.
Parce que vous posez, à travers cette arme nucléaire, une question importante. C'est la fin de l'humanité.
Bien sûr.
Là, vous l'avez fait, la fin de l'humanité sous l'eau, parce que sous-marinier, mais c'est partout. Hein.
Bien sûr, la question, c'est qu'est-ce qui peut nous sauver des menaces qu'on a créées sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui peut nous sauver? Est-ce que c'est les systèmes en place? Je ne sais pas, moi, les systèmes politiques, militaires, les jeux d'alliance. Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui relève plus de la confiance des uns dans les autres? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système sans faille. Mmh. En même temps, il n'y a pas non plus de paix sans un système. Et que donc, il faut à la fois des gens qui fassent fonctionner des systèmes humains et puis des gens qui soient prêts, tout en les faisant fonctionner, aussi à certains moments à enfreindre les règles. Et c'est un équilibre très complexe du coup. Mmh. Et ça les met, ces gens-là, ça les met dans des situations humaines quasi intenables. D'être écartelé entre un devoir d'obéir à quelque chose et tout d'un coup savoir en même temps avoir cette intuition-là qu'il ne faut pas qu'il le fasse ou qu'il faut qu'il fasse autre chose. Et quand ça vous arrive, ça vous met dans une situation humaine, morale, très dure. En fait, et voilà, j'ai voulu pousser mes personnages dans des situations comme ça très, très extrêmes.
Et c'est tous ces questionnements qui font en sorte également que votre film, pour moi, échappe au code du genre. Mm-hmm. Parce qu'on ne trouve pas dans les bons, on ne trouve pas les méchants, et on n'a pas systématiquement, je veux dire, deux opposés, alors qu'on est face plutôt à des gens qui, avec leur passé, essaient le mieux possible de résoudre une situation au présent, mais on est loin du cliché du film de genre traditionnel où on oppose aux bons méchants.
Je pense, ouais, moi, les genres, le sous-marin est un... Le genre de film sous-marin, c'est sympa, mais c'est un prétexte, en fait, ouais. On sait pas. Ce qui compte, c'est les gens, quoi. Mais effectivement, j'ai essayé de m'éloigner un peu du cliché, parce que bah, dans les films de sous-marin, par exemple, on entend tout le temps monter le périscope, baisser le périscope et tout. Moi, il n'y a pas de périscope. Donc, comme ça, c'est le problème réglé. Parce que c'est pas très intéressant. Quand on est sous l'eau, le périscope, on s'en sert pas, en fait. On s'en sert que quand on remonte en surface. Et donc, effectivement, par exemple, il y avait plein de gens qui me disaient, mais il faut qu'on voit le périscope et ça. J'ai dit, mais non, on s'en fiche. On fait un film, on n'est pas obligé d'utiliser l'imagerie que d'autres films ont créé, etc. Moi, j'avais la chance de pouvoir observer le réel, donc je pouvais partir de là et ne pas aller dans le cliché.
Et ça, c'est intéressant parce que certains termes qu'eux utilisent, que nous, on ne comprend absolument pas en tant que, je dirais, profane, on dit, OK, ça doit exister et tout, mais ça fait partie de la force, pour moi, du film, c'est que vous créez un environnement qui ressemble étrangement à ce qui, je veux dire, pourrait se passer à ce moment-là, en nous laissant voyager à travers, finalement, ces personnages-là.
Oui, alors, bon, par contre, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de recherches et que je raconte peut arriver.
Et peut arriver, hein.
Ouais. J'ai pas inventé d'astuces, de scénarios, de trucs, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. J'espère que ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver. Et je pense qu'en fait, ce sont des gens... Ce qui m'émeut, moi, chez ces personnages, ces sous-mariniers, c'est que c'est des héros de l'ombre. On n'entend parler d'eux que s'ils échouent. Et là, si on entend parler d'eux, c'est peut-être que justement, c'est arrivé, mais qu'ils ont réussi à sauver les choses.
Oui, parce que dans la question, on ne l'a pas mentionné, mais l'oreille d'or échoué dans un certain sens.
Oui.
Même si, au début, même si ce n'est pas un échec, c'est l'impression que ça nous donne.
Si.
Et là, c'est à partir de là que le film se met en place et dans une situation bien plus.
Il échoue, c'est-à-dire qu'il ne suit pas son intuition jusqu'au bout.
Okay.
Et du coup, il y a un truc qui se passe mal, et effectivement. Mais je pense que dans la vie, souvent, on commence par des erreurs. C'est les erreurs qui nous poussent à essayer de réparer des choses et à faire des choses, finalement.
Ouais. Antonin, dernière question, il ne reste pas beaucoup de temps. Pour un premier film, vous aviez un casting de luxe.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un très beau casting, je reconnais.
Ah ouais.
J'ai eu tous les acteurs dont je rêvais.
Comment c'est produit? C'était au départ, vous pensiez à eux ou c'est le hasard qui vous a amené, entre autres, à voir Mathieu Kassovitch?
Alors, moi, quand j'écris, je pense jamais à des acteurs.
Ah non?
Non, parce que vous savez, quand vous pensez à un acteur.
Puis si vous l'avez pas, après ça, c'est de la déception totale. Hein?
Mais il y a ça d'abord, mais il y a pire que ça. C'est que même si on l'a, si on pense à lui, on pense à des rôles, on pense aux endroits où on l'a vu, au film, on l'a vu. Donc on va lui proposer le même rôle. Et on va se mettre à écrire un rôle qu'il a déjà fait. Mmh. Moi, je préfère penser à mes personnages, comme je les imagine dans ma tête. Et puis une fois que j'ai fini d'écrire, je me dis, bon, avec quels acteurs j'ai envie de travailler pour créer ce personnage-là. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, en fait, j'ai eu la chance que j'aurais fait lire aux différents acteurs qui est dans le film, j'aurais fait lire le scénario. Ils ont adoré le scénario. Et même si moi, c'était mon premier film, donc ils ne pouvaient pas très bien savoir où je voulais en venir en termes de,
vous en faites confiance.
De, d'image et tout, ils m'ont fait confiance parce qu'ils étaient emballés par l'histoire. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été très chouette.
Oui, parce que dans le cas de Mathieu Kassovitz, effectivement, il est un peu à contre-rôle. Dans son personnage.
Oui, non.
Hein.
Oui, non. Oui,
on, peut, on l'a déjà vu dans certains rôles, mais dans ce cas ici, il sort des clichés auxquels on était
voilà, c'est ça. Il sort des. Il est à contre-rôle dans le sens. Omar aussi, Reda aussi. Ils sont pas en train de faire quelque chose qui est naturel pour eux par rapport à une expérience qu'ils ont déjà ou un truc comme ça. Ils sont en train de. Créer un personnage, de le composer. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette.
Oui, c'est peut-être aussi. C'est là que le métier d'acteur rentre en jeu.
Je trouve. Ouais. Parce que moi, je trouve toujours triste quand les acteurs font toujours le même rôle. Et c'est pas de leur faute, c'est qu'on leur propose toujours le même rôle, en fait. Voilà. Et donc,
c'est un réflexe naturel, souvent, lorsqu'on les voit.
C'est la valeur sûre. Mais bon, du coup, c'est pas très marrant.
Ouais. Merci beaucoup, Antonin Baudry. Donc, on rappelle que Le Chant du Loup est présenté ce soir à 18h au Cinéma Impérial dans le cadre de Cinémania. Et on t'entend mentionner hors d'onde toutes les projections. Cette année auquel j'ai assisté à Cinémania, ils sont remplis. Donc, si vous voulez voir Le Chant du Loup, vous allez sur le site, vous achetez votre billet. Je ne sais pas si c'est complet, mais je veux dire, c'est toujours, toujours, toujours rempli. Donc, félicitations à ce festival. Et bien sûr, vous allez être sur place pour répondre
absolument.
Aux questions.
Oui, absolument.
Donc, merci.
Et je me réjouis de rencontrer le public de Montréal. Ça me fait très plaisir.
Ben, nous aussi. Ça nous fait plaisir de vous avoir rencontré. Et on rappelle que hop là, c'est la fin de l'émission, je bafouille. Donc, on vous rappelle qu'au même temps que Cinémania, il y a bien sûr les 22e rencontres internationales du documentaire de Montréal. Guy Ménard à l'animation. Merci, Maxime. C'est le temps que ça finisse parce que là, après une heure de parole, bon, on va laisser ici la place à une émission se consacrer à la communauté haïtienne. Merci.
Merci beaucoup.